Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Imo.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 12h37, on est toujours en direct ici au MIPIM. C'est une première journée haute en couleur. Vous allez voir, il y a beaucoup d'intensité dans l'après-midi. On parle de tout, d'immobilier, de logement, de bureaux, de commerce, bref, de tous les nouveaux usages. Pas mal de politiques passeront d'ailleurs sur le plateau dans l'après-midi. En tout cas, on est ravis d'être avec vous. Je vous rappelle que si vous ne pouvez pas venir, ben vous suivez nos émissions sur les podcasts que nous produisons. On est sur un quasi-direct puisqu'on émet à peu près tous les quarts d'heure. Merci d'être avec nous. Alors, c'est quelqu'un que je rencontre assez régulièrement. J'ai toujours beaucoup de plaisir à la croiser pour parler métier. Elle est avec nous sur le plateau, la toute nouvelle directrice générale de Groupama Immobilier, Astrid Veil. Bonjour Astrid.
Bonjour Sylvain.
Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Vous avez été nommée directrice générale de Groupama Immobilier et de Groupama GAN REM, Real Estate Investment Management. Vous faites partie maintenant des grandes de l'immobilier français. Ça vous fait quel effet vous dire aujourd'hui que vous êtes dans les 10 premiers majors, finalement, de l'immobilier français?
Alors, déjà, ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir d'être dans une industrie dans laquelle on n'est pas entre nous des concurrents, mais plutôt des partenaires de la vision à long terme de l'immobilier. Parce que on se doit, en étant des zinzins, des investisseurs institutionnels, de travailler ensemble et de réfléchir ensemble sur la construction de la ville. Est-ce qu'on transforme du bureau en logement? Est-ce qu'on fait de l'immobilier peut-être pour l'avenir plus frugal? Et toutes ces réflexions, il faut qu'on les mène à plusieurs, et les investisseurs immobiliers ont un rôle de prescripteur qui me paraît fondamental. Et donc je suis contente de faire partie d'une industrie où on va pouvoir travailler ensemble pour construire la ville de demain.
Alors justement Astrid, avec ces nouvelles fonctions, et vraiment au nom de la rédaction, toutes mes félicitations, comme quoi dans la vie on a ce qu'on mérite. Ce que je voulais vous dire, c'est on a suffisamment d'expérience, vous et moi, pour avoir connu des crises dans ce métier. Mais ce que nous vivons là, c'est quand même tout à fait inédit. Depuis 2 ans, on vit une crise multifactorielle, multiconjoncturelle. Je vais même utiliser un mot, pardonnez-moi, je vais céder un peu à la mode, de permacrise.
Je dis polycrise parce que...
Oui, c'est ça, oui, très bien, voilà. Excellent.
Voilà. C'est une polycrise. Alors.
Vous savez, tous les jours, on se dit, tiens, quel obstacle je vais avoir, quelle emmerde va me tomber dessus, ou quel texte va modifier ceci, qui va m'aider, qui va m'obliger à bouleverser mes process, etc. Quand on est aujourd'hui à la tête d'un groupe comme le vôtre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit, justement, face à tout cela?
Alors, il faudrait regarder un peu classe d'actifs par classe d'actifs. Sur le sujet du logement...
Qui est la plus chahutée d'aujourd'hui.
Au bout d'un moment, il faut bien mettre un toit sur la tête des Français. Donc la loi de l'offre et de la demande devrait permettre, à mon avis, de sortir de cette crise. C'est une crise qui est due à la fois à la hausse des coûts de construction, qui devrait quand même se stabiliser, et à la hausse des taux d'intérêt, sur lequel les Français ont besoin de visibilité, et je pense qu'ils vont en avoir, parce que ça aussi, ça devrait être plus stable pour l'avenir. Et il nous manque un petit peu d'accompagnement fiscal et un peu d'accompagnement dans les montages et dans l'ingénierie financière. On va inventer des nouveaux modes de détenir de l'immobilier, je pense. Et ça devrait se solutionner parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a le sujet des passoires thermiques qui va faire que certains logements ne seront plus louables s'ils ne sont pas rénovés. Il y a le sujet de la sous-production de logements et de la sous-offre possible en logement, et tout ça va faire qu'au bout d'un moment, on va bien être obligé d'en sortir de cette crise qui fait qu'on n'a pas produit assez de logements.
Mais comment on va s'en sortir quand vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais moins 40% pour la production de logements neufs en France, certaines régions, moins 50%. On a des players aujourd'hui qui sont en grande difficulté, très grande difficulté, certains même ont disparu. Quand on voit aujourd'hui les défaillances des petites entreprises, il y en a eu 55 000. Le champion de toute catégorie du nombre d'entrepreneurs ayant en défaillance, c'est la construction et l'immobilier. Après, il y a la restauration. Et la deuxième chose, c'est on voit qu'il y a 2 millions de passoires thermiques qui seront retirées du marché au 1er janvier 2025 s'il n'y a pas les travaux. Vous savez, l'étiquette G.
Et il y a aussi 2 millions de personnes qui travaillent dans la filière du bâtiment. Hein, donc,
alors là, on dit, là, on parle de. Le président de la FEB parle de 30 000 emplois détruits juste en 2023. Mmh. C'est énorme.
Bien sûr. Je pense que ça va reprendre. Si on est un ménage français qui essaye d'acquérir un logement et qu'on voit qu'il y a une grande volatilité sur les taux, que le projet qu'on avait n'est plus viable parce qu'il est plus finançable, qu'on va voir son banquier en disant bah, « en fait, vous vouliez acheter 100 mètres carrés, bah, en fait, ça va être plutôt 70 ». Et bien, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on attend. Sauf qu'on ne peut pas attendre indéfiniment. Les gens ont des transformations familiales, ils ont besoin d'acheter, ils ont besoin de déménager, ils ont besoin d'investir et de générer de l'épargne. Et donc, ça va reprendre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une...
Ça va reprendre quand ?
Alors, je ne sais pas.
À votre avis ? Non, mais pour vous...
J'espère vite.
D'accord.
Parce qu'il y avait une grande corrélation entre le pouvoir d'achat et le prix de vente du logement. Okay. Depuis, souvent je dis depuis les pyramides. C'est évidemment pas tout à fait ça, mais, mais depuis toujours, en tout cas. Ça fait une quinzaine d'années qu'il y a un pas énorme entre les deux. Hein. Donc le pouvoir d'achat et le prix du logement, ça ne se suivent plus du tout. Ça a complètement décroché. Et c'est pas un décrochage qu'on va réussir à résoudre en faisant baisser les prix. Peut-être que les prix baissent un peu, mais ils ne vont pas baisser de cette mesure-là. Et donc, il va falloir qu'on invente autre chose pour combler cet écart. Et ce qu'on va inventer, c'est sûrement de l'ingénierie financière et fiscale.
Est-ce que, justement... Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ingénierie financière et fiscale, autrement dit, un socle fiscal qui permet de continuer à investir. Or, c'est exactement le contraire qui se passe.
Alors, c'est le contraire qui se passe pour le moment.
Alors, je prends pour le logement. Hein, je prends pour le, jusqu'à 2027, on va dire.
Oui, mais pour le moment, le ministre est venu faire des annonces dans le cadre de Semipim.
Oui.
Alors, je ne les ai pas encore entendues, mais j'ai l'impression que ça bouge quand même.
D'accord. Vous espérez encore quelque chose de l'exécutif d'aujourd'hui.
J'espère que ça va bouger un peu et qu'on va... que les promoteurs vont retrouver une marge de manœuvre qu'ils n'ont aujourd'hui ni dans le coût de production, ni dans la liquidité des biens à la sortie, parce qu'ils n'arrivent pas à vendre au prix auquel
vous pensez que le nouveau
ils ont
ministre,
prévu leur bilan.
Le ministre actuel, c'est le cinquième, depuis le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, pardonnez-moi, et c'est le troisième depuis en moins de deux ans. Donc... quand on voit, par exemple, le dispositif Pinel qui s'arrête à la fin de l'année, quand on voit que, finalement, rien ne vient remplacer une loi de programmation qui permettrait, par exemple, de relancer l'investissement, comme ça a été le cas, vous savez, avec la loi Périssol, Girardin, Meignery, toutes ces lois qui ont boosté un petit peu l'activité immobilière, on voit pas trop comment s'en sortir. Justement, en reprenant les chiffres du logement... On a l'impression que la trajectoire, vous savez, du moratoire du calendrier jusqu'à 2034, on n'a pas vraiment l'impression que le gouvernement veuille revenir dessus.
Moi, je continue à espérer parce qu'on a eu une crise des gilets jaunes dont on a tous bien le souvenir et bien vu les conséquences. Je ne voudrais pas que demain, on ait les gilets oranges des mal logés qui descendront dans la rue pour...
Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont mal logés.
Et Dieu sait qu'ils sont mal logés et qu'ils sont nombreux à l'être.
Absolument. 3000 enfants dorment à la rue au mois, entre septembre et décembre. Il y avait 3000 enfants tous les soirs qui dormaient dehors, faute d'hébergement d'urgence. D'ailleurs, tout à l'heure, les amis, je recevrai Françoise Olivet, le député de l'Indre, qui a fait un rapport sur justement l'hébergement d'urgence et qui a appelé les pouvoirs publics justement à résoudre ce genre de situation. Prenons maintenant d'autres sujets, puisque...
Peut-être parler aussi de l'immobilier commercial.
Alors justement, j'allais
venir... Ce qu'on disait, classe d'actifs par classe d'actifs, donc l'immobilier commercial. Le sujet de l'immobilier commercial, c'est que depuis le Covid, on s'est rendu compte qu'on était très bien nomades. C'est-à-dire qu'on peut travailler partout avec un ordinateur portable et un téléphone portable et on n'a plus besoin d'être attaché à un meuble qui s'appelle un bureau, puisque de toute façon, il n'y a plus de téléphone dessus, il n'y a plus d'unité centrale fixe.
C'est vrai, c'est vrai.
Et alors, on n'avait pas compris jusque-là, mais ça nous a sauté aux yeux. Et depuis, on a inventé le flex-office, puisque on n'a plus besoin d'armoire, on n'a plus besoin de papier, on n'a plus besoin de téléphone, et donc on n'a pas besoin d'utiliser tous les jours le même bureau. Tant pis pour la photo de famille. Et ce foisonnement
beaucoup, là.
Oui. Et la plante verte, sujet parfois très important dans les entreprises. Et ce foisonnement, il fait qu'on a besoin, on a probablement surproduit beaucoup de bureaux. Alors je ne sais pas si c'est 10%, 20%, 30%.
Pour vous, on est dans une surproduction de bureaux?
Évidemment. Évidemment, il y a aujourd'hui 4 millions de mètres carrés qui sont vides de bureaux. Mais si on a fait 20% de bureaux en trop, parce que le foisonnement, ça veut dire que quand je ne suis pas là, donc je suis en clientèle, je suis dans un rendez-vous à l'extérieur, je suis en vacances, eh bien quelqu'un d'autre utilise mon bureau. Et ce foisonnement, alors mettons, ça, on va prendre une hypothèse, 20%. Mmh. Il y a 56 millions de mètres carrés en Ile-de-France de bureaux. Donc 20%, c'est pas compliqué, ça fait 11 millions de mètres carrés en trop. Qui, ces 11 millions de mètres carrés, ne rencontreront plus jamais de public en bureau. Alors ça va pas se faire en 5 minutes, parce que les gens ont des, d'abord ils ont des engagements longs.
C'est un potentiel de logement phénoménal.
Alors c'est un potentiel de logement, mais on va y revenir. C'est un potentiel de logement, et donc c'est aussi ça qui va faire qu'on va se sortir de cette crise de production de logement, mais je vous en parlerai après. Ces mètres carrés de bureaux en trop, soit ils sont très bien localisés, à ce moment-là il faut les réparer, c'est-à-dire investir un peu d'argent dans leur agilité, dans évidemment leur enveloppe et leur performance
énergétique,
thermique, environnementale. Et puis aussi, il faut y mettre de l'art de vivre, parce que les collaborateurs de la génération qui arrive, et même la précédente, ce qu'ils aiment, c'est avoir des bureaux sympas. Qu'à l'intérieur, ça soit bien décoré, que ça aille emprunter un peu au code de l'hôtellerie, de la maison, qu'il y ait des services, que ça soit dans un environnement urbain mixte, où ils peuvent aller boire une bière avec leurs collègues en sortant du bureau, où ils peuvent faire du sport, où il y a des parcs et un environnement sympathique, qui soit vraiment dans une ville mixte et équilibrée d'un point de vue de ses énergies. Et donc cette demande-là, du bureau que j'appelle un peu le bureau art de vivre, eh bien, quand on est bien localisé, on peut le faire, on peut investir un peu dedans. Quand on est en deuxième couronne, loin des transports, c'est même pas la peine d'essayer. Ça ne marchera pas. Et donc les bureaux échoués, ça sera les bureaux que c'est même pas la peine d'essayer de les améliorer, parce que de toute façon, ils ne séduiront plus jamais personne. Et donc cette ville-là, c'est une ville probablement de friches de bureaux. On a travaillé les friches industrielles pendant
c'est
des années.
C'est vrai ce que vous dites. Oui, très bonne analogie. J'avais jamais fait l'analogie. Vous avez raison.
Ouais. Alors, j'ai inventé un mot. On disait les brown fields pour les friches industrielles. On n'a qu'à dire les grey fields pour les friches de bureaux. En tout cas, c'est notre terrain de jeu des années à venir dans production de la ville.
Très bonne analogie. Ouais. C'est vrai qu'avant, on avait de l'industrie. On s'en souvient plus aujourd'hui, mais... Les usines étaient en ville. Les hangars, les imprimeries, les grands ateliers.
Voilà, et on a doublé la taille des centres-villes en allant en prendre sur les friches industrielles. Par exemple, Lyon-Confluence, c'était des friches industrielles.
Absolument.
Et donc, on va reconstruire la ville sur la ville et on va opérer la transformation de bureaux en autre chose. Et il faut faire attention à deux choses. Un, il ne faut pas recommencer l'erreur qui a pu être faite par le passé de faire de la ville monozonée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on refasse des quartiers que de logements, parce que ça, on sait que ça ne marche pas. Ça ne crée pas les bons équilibres sociaux, ça ne crée pas la bonne animation de la ville. Ça ne fait pas la ville d'aujourd'hui, ça fait la ville d'hier, quand on avait des quartiers monozonés. Ici, c'est du bureau, là-bas, c'est de l'activité, et là, c'est du logement. Donc, il faut continuer à garder cet équilibre. L'autre sujet, c'est que économiquement, ça ne marche pas très bien. Parce que, d'abord, en Ile-de-France, souvent, le bureau vaut plus cher que le logement. Mais quand bien même, on a un bureau qu'on a acheté à un certain prix... Le coût de transformation du bureau en logement, il est assez cher, parce que techniquement, c'est assez compliqué. Les façades de bureaux largement vitrées, c'est vrai que ça ne se prête pas vraiment à du logement. Parfois, ce n'est pas très lumineux en cœur d'îlot. Les logements, il faut que toutes les pièces aient une fenêtre. Dans le bureau, on est loin d'être dans ce cas-là. Et donc, la transformation n'est pas si simple à opérer. Et le coût technique est très élevé. Donc, mettons, selon l'organisation ou la police, est-ce que c'est 3 000 ou 4 000 euros ? Peu importe, en tout cas, c'est cher.
Et donc,
si on a acheté du bureau 4 000 euros et qu'il faut remettre 4 000 euros, ça fait 8 000. Et en face, on a un prix de vente qui, d'abord, il faut faire attention parce qu'on vend de la surface habitable en France, hein, pas de la surface de plancher. Donc, il y a déjà un abattement pour toutes les parties communes qui doit être d'à peu près 20%. Ensuite, c'est du TTC. Et ensuite, il va falloir faire aussi du logement social qui, lui, ne sera pas au prix qu'on a en tête du logement accession de la ville en question. Donc finalement, cet équilibre économique, il faut déjà prendre un peu la paume avant de pouvoir reconstruire.
Il est à trouver encore aujourd'hui.
On
n'a pas résolu l'équation, puisque souvent on a beaucoup publié, mais en fait c'est normal que les bureaux pourraient être reconvertis en logement, sauf que ça coûte plus cher et qu'on a un vrai problème de sortie.
Oui, mais en fait on va le faire quand même, parce qu'il va falloir le faire. On va pas se mettre à faire du logement dans les champs de patates en périphérie des grandes villes.
Ça c'est sûr.
Donc on va bien reconstruire la ville sur la ville. On a un problème économique. On sait, on va le, on va le résoudre en prenant un certain nombre de pertes, j'espère pas trop importantes, au fil du temps et des libérations. On va trouver des solutions techniques. L'État nous propose déjà des solutions administratives et un choc de simplification parce que la réversibilité administrative, elle n'est pas aussi simple qu'en 10 ans. Et ce qui est sûr, c'est que pour l'avenir, on va arrêter de fabriquer du bureau que bureau. On va fabriquer des immeubles réversibles. Il faudra qu'on soit toujours, à la fois d'un point de vue administratif, mais aussi d'un point de vue technique, dans une possibilité de transformation plus simple que tout ce qu'on a pu fabriquer par le passé. C'est sûr qu'un immeuble de bureau largement vitré, on voit moins comment on y met du logement. Et bien ça, il faut que ça change.
Sur les classes d'actifs, justement, si on parle de Groupama Immobilier, vous avez des classes d'actifs différentes, vous faites du retail, du bureau, quelle est la dominante de la classe d'actifs la plus importante chez Groupama?
Alors c'est le bureau.
C'est le bureau. Hein.
D'autant plus que, vous le savez peut-être, mais on est l'investisseur de la tour qui est en cours de construction, qui sera louée par Total Energy à La Défense, donc la tour de Link. Qui est une tour qui fait un peu plus de 130 000 mètres carrés. Hein. Donc, c'est une tour avec deux noyaux dans un concept de tour tout à fait original, inventé par Philippe Chiambaretta et qui domestique un peu la tour et qui recrée des horizontalités.
Philippe Chiambaretta, d'ailleurs, qu'on va recevoir tout à l'heure et qui va nous parler aussi de son investissement à l'université PSL, justement, où il fait des choses remarquables. Moi, je suis fan de Chiambaretta parce qu'il a une touche très particulière.
Absolument, il a surtout une vision et il construit l'avenir. Et c'est ça qui est important, en fait. Vous me demandiez en début d'interview ce qui me faisait plaisir dans le fait d'être à la direction générale de Groupama Immobilier. En fait, c'est aussi de pouvoir réfléchir avec nos pairs et inventer l'avenir de façon construite, concertée. Et puis, moi, je ne crois pas qu'on a des idées tout seul dans son canapé ou tout seul dans son bureau. Je pense qu'on a des idées au contact d'autres. Et plus on est confronté à des situations, à des métiers différents, à des points de vue différents, plus on invente des choses qui peuvent fonctionner. Et je suis sûr qu'on va y arriver à reconstruire la ville sur la ville.
J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur les plateaux. C'est toujours un plaisir de vous voir. Et je suis vraiment très heureux et très fier de vous avoir sur le plateau, puisque maintenant, vous êtes une grande dame. Vous étiez déjà une grande dame de l'immobilier. Vous l'êtes encore plus à la tête de Groupama, comme quoi, finalement, il y a toujours de belles choses. Mais je salue également votre prédécesseur, Éric Denet, avec qui j'ai partagé beaucoup d'émissions avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et on lui souhaite une très belle continuation.
Voilà, et moi-même, 10 ans de travail en étroite collaboration.
Absolument. 10 années,
voilà. Et donc j'ai tellement appris auprès de lui qu'il va terriblement me manquer, mais voilà, maintenant je suis à sa place.
Et ce qui vous qualifie d'ailleurs extrêmement bien, c'est une chose qui fait partie de votre personnalité, comme quoi la singularité fait toujours la personnalité, c'est l'extraordinaire simplicité dont vous faites preuve à chaque fois, et ça c'est vraiment la marque, j'allais dire, c'est presque une touche féminine, et je trouve ça très bien, vraiment, je vous le dis, très bien, qu'enfin on mette des femmes à la tête de groupes immobiliers, parce que je peux vous dire que dans l'immobilier, c'est pas toujours si évident que cela, mais ça mérite d'être dit, surtout qu'on est à passer, on était, je vous rappelle, le 8 mars, la journée internationale du droit des femmes. Alors, je suis pas spécialement féministe, mais l'égalité, ça me parle quand même un peu pour dire les choses comme elles sont. Merci Astrid Veil. Je rappelle, vous êtes donc la directrice générale de Groupama Immobilier. On vous retrouve très facilement et on vous retrouvera très certainement sur nos plateaux. Il est exactement 12h55, l'heure de faire une petite pause. Je renvoie les émissions à Paris et on va se retrouver avec justement un groupe leader de transactions en Belgique. C'est le groupe WeInvest qui investit lourdement d'ailleurs en France avec un tout nouveau directeur général qui s'appelle Xavier Belbeau. On recevra Laurent Brahem qui est installé à Waterloo. On le recevra dès 14h. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Allez prendre un bon petit déjeuner ou un déjeuner sur la plage si vous êtes à Cannes. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, écoutez, on pense bien à vous parce qu'il fait vraiment très beau ici. Merci à vous.
Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.